pour avoir tardé à réagir après le coup d'État avorté. Voilà pour ce bulletin de nouvelles.
I have a dream.
It's one small step for man.
Une Amérique qui est maintenant multiculturelle, multiforme.
One nation under God, indivisible, with liberty and justice for all.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous retrouver comme toutes les semaines dans l'Amérique et vous sur VOA Afrique. Nous émettons depuis Washington DC aux États-Unis. Au micro de présentation, John Linden, Joselle Morrison et Fred assurent la production de ce programme. Mise en onde par Sidrack Franklin. Installez-vous confortablement et on se retrouve juste après. Vous êtes sur VOA Afrique, vous écoutez l'Amérique et vous. Une rencontre était prévue cette semaine au sommet de l'Asie du Sud-Est, au Laos, entre Barack Obama et son homologue philippin Rodrigo Duterte. Elle a finalement été annulée par le président américain après avoir été traité de fils d'un terme péjoratif que je préfère ne pas prononcer ici. Les Philippines sont pourtant un pays proche allié régional des États-Unis. Une fois l'acte posé, le gouvernement philippin, dans un communiqué publié juste avant l'ouverture du sommet de l'ASEAN, l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, à Vientiane, a présenté les excuses de Rodrigo Duterte. Le chef de l'État regrette que ses remarques devant la presse aient causé une telle controverse, a déclaré son équipe. Au-delà de cet épisode, de nombreux présidents et leaders du monde entier nous ont habitués à des discours qui très souvent ne cadrent pas avec leurs fonctions ou avec celles qu'ils veulent occuper. On peut citer entre autres Nicolas Sarkozy, Silvio Berlusconi, Vladimir Poutine, Donald Trump, Robert Mugabe et j'en oublie sans doute. Alors, question, que pensez-vous de l'attitude du président philippin et de la réaction du président américain? Et au-delà de ça, que dire de la manière dont nos leaders s'expriment aujourd'hui? C'est la question de l'Amérique et vous. Cette semaine, nous vous donnons la parole dans l'Amérique et vous. Faites-nous part de vos réactions sur Facebook ou en direct au 001-202-619-3140. Vous pouvez aussi choisir de poser vos questions directement à nos invités. Et pour nous accompagner dans cette émission, ce soir, nous avons déjà en ligne François Durper, historien des États-Unis, enseignant. François Durper, bonsoir.
Bonsoir.
Merci, merci vraiment de votre disponibilité. Il se fait un peu tard à Paris, d'où nous vous appelons. Nous avons également comme invité Alassane Fall, ici aux États-Unis, consultant international. Alassane, bonsoir.
Bonsoir, Jacques.
Voilà, merci. Je vais commencer par François Durper. Votre réaction à la suite de cet épisode entre le président des Philippines et puis le président américain Barack Obama?
Il y a plusieurs niveaux d'analyse et c'est vrai que si on prend un petit peu de hauteur par rapport à ce qui se passe, je pense qu'il faut souligner que le président philippin, c'est évidemment pas une excuse, hein, mais il faut quand même préciser dès le départ que l'insulte s'est faite dans la langue d'origine de Rodrigo Duterte, hein, le Tagalog. Donc ça veut dire qu'on pouvait penser peut-être que le président philippin, lorsqu'il s'exprime dans sa langue, imagine peut-être que ça ne va pas immédiatement être répercuté. Mais ce qui va être peut-être l'objet aussi de notre débat, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes dans une ère de la transparence absolue et que tout propos tenu dans n'importe quel contexte et évidemment dans n'importe quelle langue et auprès presque de n'importe quel public, eh bien, tout propos peut être l'objet de transparence et de publicité globale, puisque Aujourd'hui, c'est le monde entier qui sait ce qu'a dit le président philippin, évidemment avec les répercussions diplomatiques que l'on connaît par la suite.
Alors, on va poursuivre cette émission, on va en parler avec nos auditeurs et bien sûr des réactions reçues sur Facebook. Nous avons été rejoints par Habib Niakate, journaliste à Jeune Afrique et qui se trouve en ce moment ici aux États-Unis. Habib, bonsoir.
Bonsoir.
Merci pour votre disponibilité aussi. Vous avez suivi, vous, cette actualité ici, étant ici aux États-Unis. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, j'ai suivi ici parce qu'évidemment, comme le disait votre, alors j'ai pas très bien entendu.
François Durpère.
Voilà, j'ai pas ok, François Durpère, comme le disait François Durpère juste avant. Effectivement, c'est une déclaration qui a pris des proportions très rapidement, de très grosses proportions très rapidement. Après, effectivement, je ne pense pas que ce soit un argument complètement valable parce que ce monsieur. Est connu, reconnu entre guillemets pour ses sorties de cet acabit-là. Il a un langage très fleuri que tout le monde commence à connaître. Ça fait seulement deux mois, depuis juin qu'il est au pouvoir et on ne compte plus ce type de sortie. Donc il n'a pas été mal traduit ou les propos n'ont pas non plus été sortis de leur contexte à chaque fois quand il s'en prend au pape et qu'il le traite aussi de la même insulte quand il s'en prend à des policiers, quand il s'en prend à des trafiquants et qu'il a ce langage hyper fleuri, au bout d'un moment on se rend compte qu'il ne s'agit pas complètement de problèmes de traduction et que ce n'est pas non plus de la faute des médias qui reprennent et amplifient à chaque fois ses propos.
Voilà.
Donc, ce que j'en pense c'est que effectivement ça commence à être un peu inquiétant et que avoir des politiques, des présidents de surcroît qui ont ce type de vocabulaire de manière complètement irréfléchie sur les conséquences que ça peut avoir sur leur pays, et notamment économiquement, parce que dans le cas des Philippines, on commence à avoir des conséquences économiques assez importantes. Je trouve que c'est assez inquiétant.
Alors, on va accueillir un autre invité qu'on a dans cette émission. Ce soir, il s'agit du professeur Mesanga Nyamding, qui est enseignant à l'Institut des Relations internationales du Cameroun. Professeur, bonsoir.
Oui, bonsoir.
Alors,
merci pour l'invitation.
Alors, c'est un honneur de vous avoir dans cette émission, puisque on parle un peu de relations internationales ici, j'allais même dire de diplomatie. Comment est-ce que vous analysez cette situation-là à votre niveau?
Moi, je crois qu'il faut analyser ce qu'on peut appeler un incident au sommet. Parce que du point de vue des relations internationales, un incident au sommet, c'est le type d'incident qui oppose généralement les chefs d'État et de gouvernement. Vous savez, de manière classique, on parle de rencontres au sommet, qui sont les rencontres de chefs d'État et de gouvernement, mais on a connu plusieurs incidents au sommet. Souvenez-vous, pendant la guerre froide, lorsqu'il y avait encore la position de l'Union soviétique à celle des États-Unis. Aujourd'hui encore, on le voit au Proche-Moyen-Orient, lorsque le Hamas prend position et l'État d'Israël prend une position. Mais dans le cas d'espèce, il faut d'abord reconnaître que les Philippines sont aujourd'hui une singularité depuis Coriakino. Le nouveau président philippin, qui est là effectivement depuis 4 mois, bientôt, est arrivé dans des circonstances exceptionnelles. Il y a le trafic de drogue, il y a l'instabilité. Et rappelons-le quand même, pour les Philippins, il a été voté pour éradiquer certains fléaux. Et reconnaissons que les États-Unis, la seule hyperpuissance de l'heure, qui a un regard, il faut le dire, non seulement sur les États des Amériques, hein, c'est-à-dire que les États qui appartiennent à l'OEA, l'Organisation des États des Amériques, avec une ligne qu'on a bientôt reconnue depuis longtemps, menée par la doctrine de Monroe, c'est-à-dire l'Amérique aux Américains, les Américains ont transgressé cette zone des Amériques pour avoir ce qu'on peut appeler une forme d'arrière-cour.
Alors,
on l'a vu à l'époque au Panama, on l'a vu aujourd'hui dans les Philippines.
Professeur,
Barack Obama donc s'exprime en tant qu'homme libre, quelqu'un qui défend les droits de l'homme, qui a une autre vision par rapport aux objectifs du président philippin.
On revient sur ça tout à l'heure. Le temps pour moi d'introduire aussi, de poser la question à Alassane Fall. Vous êtes consultant international. Lorsque vous voyez ce genre de réaction, qu'est-ce que vous vous dites?
Écoutez, John Mazemouti, d'abord, c'est la réponse, je dirais, mesurée du président Obama, quand même, parce que ça, c'est un leader. Quelqu'un d'autre pourrait, disons, réagir d'une façon trop extensif, mais bon, vu que lui, il est mesuré, donc il a vraiment, je me suis dit qu'il a pris la mesure adéquate. Donc, quand on s'adresse à un président quand même qui représente un pays, il faut respecter le pays. Mais quand même, il y a quelque chose que j'aimerais faire savoir aux auditeurs.
Allez-y.
Parce que vous voyez la réponse, disons, le comportement du président de Philippines. Mais regardons le plan intérieur. Durant l'état de la nation, quand le président Obama s'adressait, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un congressman, un parlementaire qui s'est levé pour lui dire que mais vous mentez, vous vous souvenez?
Oui, je me souviens bien.
Donc le fait que le président même n'est pas respecté par l'institution, les institutions ici les plus élevées.
Il a d'ailleurs dit qu'il était habitué à ce genre de propos.
Effectivement, non seulement ça, mais aussi, mais il y a un membre de la Cour suprême. Quand le président parlait, il disait, c'est pas vrai. Donc nous sommes ici, on regarde tout ça à la télé.
Alors, Alassane, je vais poser la question à François Durpaire. Ce genre de langage, on l'a vu aussi avec beaucoup de chefs d'État, y compris en France, où vous êtes. Je me souviens, par exemple, de Nicolas Sarkozy, qui a tenu ce genre de discours aussi. C'était vrai, pas à l'endroit d'un autre président, mais quand même, nos leaders doivent parler autrement, non?
Oui, vous vous souvenez sans doute de l'ouvrage de Frédéric de Kantorowicz, Les deux corps du roi, où Kantorowicz distingue le corps privé du roi et son corps public. Donc, quand vous avez effectivement Rodrigo Duterte ou Nicolas Sarkozy dans le privé, bah, leurs propos, j'allais dire, n'engagent qu'eux. Ils insultent qui ils veulent, un autre chef d'État ou une catégorie de la population s'ils veulent. Ou dans le cas de Nicolas Sarkozy, vous vous souvenez du casse-toi pauvre con, c'était un citoyen lambda. Mais lorsqu'ils sont présidents, c'est-à-dire que lorsqu'ils sont dans l'exercice de leur fonction à l'extérieur, lorsque précisément, c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, pour évidemment pas dédouaner le président philippin, mais lorsqu'ils sont devant les caméras, lorsqu'ils sont face à, finalement, à leur corps public, eh bien, à ce moment, il y a un contrôle de leurs paroles et leur parole qui peut être évidemment globalisée et doit être l'objet d'un contrôle extrêmement maîtrisé.
Voilà. On va continuer tout à l'heure.
De l'homme qui incarne son pays et sa nation et ses institutions.
François, on va continuer tout à l'heure. On va prendre une pause. Je vous rejoins dans quelques instants.
L'Amérique et vous, en direct de Washington.
L'Amérique et vous, aujourd'hui, nous parlons du président des Philippines qui a insulté cette semaine le président des États-Unis. Et nous avons quelques réactions sur Facebook. Celle-ci est de Nauruz Mangezu qui dit « L'attitude pitoyable et irresponsable de M. Duterte dénote de son caractère barbare. Ses propos injurieux du président Rodrigo tentent de cacher les réalités qui sévissent dans l'État philippin et qui pourraient lui créer des sérieux problèmes. » Pour engager sa lutte contre le fléau de la drogue en Philippines, M. Rodrigo fait exécuter les toxicomanes et les dealers par ses concitoyens. Et on a également cette réaction de Roger Martial Abou qui dit « Duterte a oublié qu'il était un chef d'État et que, comme tel, il devrait tourner 7 fois sa langue avant de parler. il est à plaindre. Abby, vous êtes ici en ce moment aux États-Unis et vous êtes à New York. Mm-hmm. Il y a également un phénomène à New York, on va dire, celui de Donald Trump, qui pourrait bien devenir demain le président des États-Unis et qui n'a pas un langage très, très loin de celui dont on parle ici.
Exactement. Et puis, comme vous avez pu remarquer dans de nombreux médias et dans de nombreux débats autour de ce sujet, on a tout de suite remarqué que le président philippin était d'ailleurs surnommé le Trump philippin. Mmh. Et donc, au-delà de ça, c'est vrai que quand je disais tout à l'heure que c'est inquiétant, parce que c'est que ce président philippin, c'est un énième exemple de ce type de leader un peu populiste qui émerge un peu partout dans le monde, et qui ont un niveau pas seulement de populisme, mais aussi au niveau du vocabulaire et même au niveau de la politique qu'ils prônent ou qu'ils exercent déjà dans le cas du président philippin, qui commence un peu à être inquiétant. On a aussi, c'est vrai en France, Marine Le Pen qui, dans une moindre mesure, hein, parce qu'elle n'est pas, aussi grossière, elle n'est pas aussi vulgaire, mais elle est extrêmement populiste aussi. On a l'émergence, il y a Beppe Grillo en Italie, il y a Trump aux États-Unis, aux Pays-Bas aussi, il y a des exemples, en Allemagne. Donc il y a l'émergence un peu de ce type de leader qui émerge parce qu'on sent qu'il y a une énorme désaffection de la population face à la classe dirigeante classique, entre guillemets, et ça laisse le champ à l'émergence de ce type de personnes. Et ce qu'on voit, c'est que c'est assez, ça commence à être assez récurrent.
Voilà, et on a également en Afrique, c'est pas des gens qui émergent, mais des gens comme Robert Mugabe qui sont là depuis.
On
s'est presque habitué à ce genre de discours de sa part. Oui. Mais professeur Messanga Niamding, est-ce que finalement la diplomatie, les relations internationales sont en train de perdre de leur sens?
Mais écoutez, c'est un style diplomatique. Vous savez qu'aujourd'hui, on parle de diplomatie économique, diplomatie du langage, diplomatie de la démocratie. C'est une forme d'affirmation de la personnalité de ce monsieur. C'est-à-dire qu'il a besoin, permettez-moi d'être un peu plus dur, d'être sauvage pour jouer aux oraux et s'affirmer comme tel. Vous savez, comme l'a dit d'ailleurs la dame qui m'a précédé, il fait du populisme. Il a besoin de ça pour montrer qu'il est le Zorro, le Don Quichotte qui arrive sur son âne et qui n'a peur de rien. N'oubliez pas aussi que dans le temps, aux États-Unis, on a connu ce langage au sommet, ordurier, lorsque Bush à son temps parlait de l'axe du mal et de l'axe du bien. Là aussi, qu'est-ce que ça voulait dire? Qui était le bien, qui était le mal? Donc vous comprenez que cela, pour moi, en tant qu'analyste, relève d'une stratégie d'affirmation d'un monsieur qui n'est pas une puissance militaire, qui n'est pas une puissance culturelle, qui n'est pas une puissance économique, qui se comporte effectivement comme un homme qui peut tenir l'axe de l'État voyou, qui fait face aux États-Unis d'Amérique. Pour la preuve, on en parle. Et si vous allez dans les réseaux sociaux, ça fait un buzz. On peut dire sur ce point bien précis que, du point de vue des relations internationales, il a atteint son objectif.
Eh bien, objectif atteint également parce qu'on a une réaction de Facebook de Bali Serge Quadio qui, lui, dit « Je n'ai pas pardonné à Obama son soutien tout azimut à Nicolas Sarkozy dans sa guerre et l'assassinat de Kadhafi en Libye et en Côte d'Ivoire dans la crise post-électorale. »
Et d'ailleurs, quand vous évoquez c'est la mort de Kadhafi, bon, vous savez qu'à un moment donné aussi, c'est le même Obama que nous avons tous soutenu, du moins la plupart des Africains, qui disaient que les Africains n'ont pas besoin des hommes forts, mais des institutions fortes.
Alors, monsieur...
On se rend quand même compte que quelque part, le monde se construit avec les hommes forts. Alors, et je vais chuter parlant de la France. Mmh. On a connu un tel problème ici avec Jean-Marie Le Pen, lorsqu'il parlait du rafou crématoire. Au sommet, j'ai un souvenir en tant que politologue d'un propos injurieux dans un débat en 1986 qui opposait l'ancien premier ministre français Laurent Fabius à Jacques Chirac qui était chef de l'opposition. Il a traité vulgairement, je voudrais peut-être vous le rappeler, M. Fabius de roquet. Mmh. Il a traité de roquet en mondialisation. Donc, c'est dit que c'est un style qui permet peut-être à M. Rodriguez de faire...
Voilà. On va prendre. Je vous en prie.
On a vu les propos hier encore, souvenez-vous, de Castro. On a connu les propos de Kadhafi lui-même.
Tout à fait.
Qui traitait... On a actuellement regardé la guerre que se fait. Nous, en termes de propos, les Irakiens ne sont pas des musulmans.
Monsieur, professeur Messiaen Ganyamdine, je vais prendre un auditeur, Youssouf Ouedraogo. Bonsoir.
Oui, bonsoir, John Linden, invités à la rédaction de VOA Afrique.
En quelques secondes, votre réaction sur ce sujet.
Alors moi, je pense que c'est l'attitude du président philippin est tout simplement ridicule et honteux, parce que c'est l'œuvre d'un homme dépassé, déconnecté, qui flotte avec une très mauvaise appréhension de la politique et qui n'est pas du tout un exemple à offrir aujourd'hui dans cette société agitée-là. Alors moi, je pense que la réaction mesurée et très raisonnable du président Obama est une leçon à retenir pour lui dans tous les États africains. Évidemment, il n'est pas parfait comme tout être normal, excusez-moi l'expression, mais je pense que son attitude rend un grand service aux démocrates et aux générations montantes que nous essayons à chaque intervention d'incarner dans le monde d'aujourd'hui.
Voilà, merci. François Durper, est-ce que la réaction du président Obama est tant que ça bien appréciée? Il a dû annuler toute une rencontre avec d'autres chefs d'État. Et simplement parce qu'il a été insulté?
Oui, mais il a quand même essayé de trouver un équilibre et une mesure. Évidemment, l'annulation pour marquer le coup, on n'imagine pas que le président des États-Unis puisse serrer la main d'un homme qui vient de l'insulter. Et en même temps, il n'a pas jeté de l'huile sur le feu. Rien de bon, évidemment, ne se fait... dans la réaction immédiate et à chaud. Mais peut-être un point aussi qu'il faut souligner, c'est que pour faire une analogie, on pourrait dire qu'on a là une asymétrie de puissance très très nette entre les Philippines et les États-Unis. Et ce que fait ce président Rodrigo Duterte, encore une fois, sans évidemment le dédouaner, peut être comparable à une sorte de terrorisme verbal. C'est-à-dire qu'il n'a pas la possibilité de parler d'égal à égal avec le président des États-Unis. Donc, il insulte. Et je vous donne un point de comparaison. Il y a quelques jours, vous avez vu l'incident qui a touché diplomatique, le président américain à sa descente d'avion en Chine. Il n'y avait pas eu d'insulte. Il n'y a pas eu, si vous voulez, de terrorisme verbal de la Chine, puisque la Chine parle d'égal à égal et s'est contentée d'accueillir de manière extrêmement particulière la délégation américaine. Donc il n'y a pas eu évidemment d'escalade verbale, il y a eu une maîtrise des deux côtés, mais en même temps évidemment dans la manière, on a appris ça le red carpet gape, ça a quand même été un couac diplomatique, mais vous voyez, la tension là entre puissance égale s'exprime de manière différente que lorsque un État très important s'exprime, et lorsque c'est un État un peu plus moyen qui évidemment ne peut pas s'exprimer d'égal à égal.
C'est entendu.
Un point peut-être à souligner, et puis comme l'a dit votre interlocutrice tout à l'heure, il y a cet aspect très intéressant aujourd'hui des populismes qui sortent de ce qu'ils appellent le politiquement correct, et puis également une manière de faire jouer son opinion publique intérieure, parce que dans cette dimension du populisme, il y a un regain très fort de nationalisme, mais de nationalisme agressif, et donc jouer contre la grande puissance, jouer contre le pays étranger, c'est aussi jouer sur les instincts les plus bas de son opinion publique.
Voilà, merci. Professeur,
autour de soi.
Professeur Messiaen Ganyamdine, juste en quelques secondes, est-ce que M. Obama n'aurait pas fait preuve de diplomatie en allant justement rencontrer M. Rodrigo et discuter d'homme à homme avec lui?
Non, là, tout le monde convient que il a réagi en homme d'État, il a pris sa distance. Mmh. Vous savez que si aujourd'hui la guerre est asymétrique, j'ai beaucoup aimé le langage de mon prédécesseur qui a parlé effectivement qu'aujourd'hui il y a un langage aussi asymétrique ou qui sort de la dimension conventionnelle. Mais pour chuter en une seconde,
oui.
Je voudrais quand même dire à vos auditeurs que le monde aujourd'hui tend à être asymétrique. Vous savez, longtemps, la domination par les armes, par l'idéologie, par l'économie a échappé aux pays du tiers-monde et à la périphérie. Il faut s'attendre de plus en plus à une réaction, je dirais, asymétrique, c'est-à-dire non conventionnelle, pour que les petits États se font aussi entendre, même si, quelque part, je condamne l'acte du président Philippin.
Voilà. On tire à la fin de cette émission, Abby Niakate, le mot de la fin, et qu'est-ce qu'on peut retenir comme leçon de cet épisode?
Non, je voulais juste faire une petite précision. Je crois que finalement, les deux hommes se sont rencontrés. Très, très brièvement. Mais je pense qu'ils se sont rencontrés. La Maison-Blanche a fait un communiqué assez laconique en ce sens.
Justement.
Et donc, je pense que ce qu'il faut retenir, comme le disait l'intervenant précédent, c'est que Obama, effectivement, dans la continuité de son attitude qu'il avait lors de ses deux mandats, a été, comme on dit ici, assez classe et assez diplomate jusqu'au bout. Il l'a rencontré. Le président philippin a sorti aussi un communiqué dans lequel il ne s'excusait pas, mais dans lequel il se justifiait.
Il regrettait, oui,
voilà,
tout à fait.
Il regrettait un peu. Donc voilà, je pense que c'est quelqu'un qui commence son mandat de président. Obama, lui,
voilà,
tire sa révérence. Il y en a un qui
merci,
apprend. Et
merci, Abby. Merci,
qui...
Abby. Désolé. On va s'achever, on va se séparer. Cette émission, on va s'achever. Merci à François Durper, merci au professeur Messenga Niamding, Alassane Fall et Abby Niakate. John Lyndon était à la présentation. Joselle Morissin assurait la production de cette émission assistée de Fred. Et puis nous avions à la mise en onde Caesar Franklin, autant pour moi. John Lyndon, restez à l'écoute des programmes de VO Afrique sur voafrique.com. Bonsoir.